affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Vous souvenez-vous de l'enthousiasme qui régnait voici 30 ans en Occident, lorsque le rideau de fer, puis l'Union soviétique se sont effondrés. À cette époque, on pensait volontiers que la disparition du bloc soviétique consacrait le triomphe des valeurs démocratiques et libérales, si bien qu'il était commun de penser, avec Francis Fukuyama, que la planète entière allait entrer dans la fin de l'histoire. 30 ans plus tard, cet optimisme n'est bien sûr plus de mise. Non seulement parce que le monde unipolaire est devenu multipolaire, parce que les nations occidentales sont contestées sur le plan de la puissance, mais aussi désormais sur le plan des idées. De la Chine à la Russie et dans le monde musulman ainsi que dans certaines nations occidentales d'ailleurs, les valeurs libérales et démocratiques sont contestées, les valeurs individualistes, par des nations qui leur dénient leur caractère universel. C'est ce mouvement fondamental qui contribue à expliquer bien des faits d'actualité aujourd'hui que décrit Chantal Delsol dans son dernier ouvrage « Le crépuscule de l'universel ». Madame, bonjour. Je précise que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et je voudrais que vous nous décriviez d'abord cet état des lieux.
Bonjour.
Avant de l'expliquer.
J'ai été frappée. Je suis allée à un colloque en Chine il y a quelques années à peine, peut-être 3 ans maximum. Et on m'avait demandé de parler des droits de l'homme, de la laïcité, très exactement, en France. Et j'ai été très frappée de la réaction de nos collègues chinois qui étaient là. Il y avait une dizaine de collègues chinois, des philosophes de la politique. Et j'ai été frappée de la réaction. En réalité, ils se sont moqués de moi en disant « Vous êtes bien ridicules, vous autres occidentaux, de croire à ça, les droits de l'homme. La dignité de la personne, ça n'existe pas. La notion de personne, c'est quelque chose que vous avez complètement inventé, mais peut-être ça fonctionne pour vous, mais pas du tout pour nous, etc. » Et au fond, c'était la première fois que j'avais affaire à une sorte de levée de bouclier aussi sincère, au fond, parce que c'était pas du tout de la méchanceté, c'était juste de la sincérité, l'air de dire « arrêtez de nous seriner avec tout ça, peut-être que ça marche pour vous, mais pas pour nous, nous n'en voulons pas ». Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une espèce de césure, de césure historique. Jusqu'à il y a peu de temps, peut-être il y a 15 ou 20 ans, les hommes politiques, les gouvernants français, allemands ou autres, étaient capables d'aller en Chine et de négocier tel ou tel contrat en échange d'une avancée des droits de l'homme. Et les Chinois se pliaient. Et maintenant, c'est complètement fini, ça. Et on se rend compte que c'est vrai pour d'autres aires culturelles, comme on dit maintenant, comme par exemple la Russie de Poutine ou un certain nombre de pays musulmans. Et ça, je crois que c'est un véritable tournant.
Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois que les pays occidentaux sont face à des mouvements qui contestent leur hégémonie. Pour ne prendre qu'un exemple, la décolonisation était l'un de ces mouvements.
Bien sûr.
Mais il est vrai qu'à cette époque, et là, ça permet de comprendre la rupture, c'était au nom de principes générés par l'Occident que cette opposition à l'Occident se réaliser. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect de la rupture? Parce que le point est là, c'est que désormais, l'Occident n'est plus contesté avec un logiciel occidental.
Oui, exactement. C'est le logiciel, comme vous dites, le logiciel occidental qui est, pour ainsi dire, qui est récusé, plus qu'abandonné, mais même récusé. Et ça a commencé, vous savez, ça a commencé assez tôt, finalement. Ça a commencé au tournant du siècle, en fait, il y a une vingtaine d'années. Par exemple, l'une des dates qui me paraissent importantes, c'est le livre d'Alexandre Zinoviev, celui d'auteur béant, un très, très grand dissident russe, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'occidentisme ». où il montre que les droits de l'homme et tous les principes occidentaux, en fait, sont une idéologie. Ce n'est pas quelque chose d'universel, ce n'est pas un discours universel qui peut s'appliquer à tout le monde, mais c'est véritablement une idéologie qui est valable pour l'Occident seul et qui fait croire qu'elle est universelle pour pouvoir se répandre partout, mais qui en réalité n'est qu'une idéologie particulière faite pour le triomphe de l'Occident et pour sa conquête. Alors, il y a bien d'autres étapes, mais je crois que ça a commencé vraiment très très tôt. Alors, la question est de savoir pourquoi. Pourquoi ça a changé, hein ? C'est une question très difficile. Nous ne savons pas véritablement. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même avec le manque d'assurance de l'Occident, le manque de confiance de l'Occident lui-même, le fait que nous-mêmes nous avons honte de nous, voire même ça peut aller jusqu'à une forme de haine de soi. Donc nous avons honte de nous à cause du XXe siècle, qui n'a quand même pas été quelque chose de merveilleux du point de vue de nos actions. Nous avons honte de nous parce que nous avons honte des siècles passés, de la décolonisation, enfin bon, on pourrait développer tout ça. Et je pense que ça joue, parce qu'à partir du moment où nous n'avons plus envie de défendre ce que nous considérons comme un universel, à partir de ce moment-là, les autres n'ont pas envie de le défendre non plus. Je pense qu'il y a ça. Et puis il y a une sorte de renouveau, oui, on peut dire ça, du nationalisme, un peu dans le monde entier, parce que finalement c'est au nom du nationalisme, bon, il faudrait développer ça, mais
que oui, je crois que ça vaut le coup, parce que ce n'est pas après tout, la décolonisation, c'était des nationalismes aussi, mais des nationalismes modernes. Alors là, il s'agit quand même d'autre chose qui va plus loin que les institutions ou le droit à l'indépendance ou à l'autonomie.
Ça va plus loin que les institutions, au sens où c'est une affaire de philosophie, hein. C'est une affaire de croyance, une affaire de peut-être de religion ou de religion politique, on pourrait dire ça comme ça. Donc ça va très loin. Il y a une sorte de refus de l'influence occidentale. Peut-être que c'est la suite aussi des décolonisations. Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons, hein. La suite de la décolonisation, c'est au fond le refus de l'influence occidentale. Donc, il y a ça aussi. Ce sont des pays qui veulent reprendre la main sur eux-mêmes. Et donc, ils commencent à nous critiquer en tant que nous prétendons à l'universel. C'est ça qui m'intéressait.
Alors, quelle est la critique qu'ils adressent à cette idéologie, selon leur point de vue, occidentale ou occidentiste ?
Ils disent qu'elle est... Elle est enviable et mauvaise. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Ce joueur de flûte, il est appelé dans un village infesté par les rats et il entraîne derrière lui, au son de sa flûte, tous les rats du village, après avoir promis aux villageois de le payer pour ça. Et comme les villageois refusent de le payer pour ce service qu'il a rendu, eh bien, il revient et au son de sa flûte, il entraîne derrière lui tous les enfants du village. Et il les emmène dans un lieu que personne ne connaît, et pour toujours, ce qui est évidemment une vengeance terrible. Donc ce joueur de flûte est quelqu'un qui charme tous les publics, puisque aussi bien les publics de rats que les publics d'enfants, les publics les plus divers. Et au nom d'un charme qui est mystérieux, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire des gens ou des animaux qui suivent un joueur de flûte uniquement au son de sa flûte. Enfin, c'est complètement incroyable et il n'y a pas de raison à ça. C'est une sorte de charme mystérieux. Eh bien, l'argument de ces cultures extérieures vis-à-vis des droits de l'homme, c'est de dire que les droits de l'homme opèrent un charme mystérieux. Ils sont enviables. La liberté individuelle, c'est quelque chose d'enviable, mais c'est mauvais. Et le fait que ce soit enviable, oui, nous le savons, parce que, par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les terroristes islamistes qui jettent des bombes ici ou là en Occident, parfois de façon gravissime, et on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout des gens qui veulent vivre selon les lois du prophète Mahomet il y a 10 siècles. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui sont entourés d'ordinateurs et de machines et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre comme les Occidentaux. Alors, il doit y avoir là-dedans tout un complexe très, très bizarre, hein, pour peut-être du ressentiment. Hein. Je détruis ce que je n'ai pas pu obtenir, mais dont j'ai tellement envie. Il est clair qu'il y a, une envie d'Occident partout. Et d'ailleurs, les auteurs musulmans qui ont beaucoup écrit là-dessus, notamment des Persans, le disent bien. Il y a une terrible envie d'Occident et en même temps une impossibilité de ressembler. Donc, la première raison qui est avancée, c'est ça. Vous avez un charme puissant et irrésistible, mais en fait, c'est un mauvais charme. Parce que, au fond, la liberté individuelle que vous prenez et qui est tellement enviable, parce que finalement, tout être humain normalement constitué n'a qu'une envie, c'est de faire ce que bon lui semble. Mais c'est enviable, mais c'est mauvais parce que ça détruit les sociétés. Les sociétés ne fonctionnent au contraire que grâce à des principes communs, à des liens. Or, vous détruisez les liens et vous donnez à tout le monde envie de détruire les liens parce que finalement, tel que nous sommes, égoïstes comme nous sommes, chacun d'entre nous n'avons qu'une envie, c'est de détruire les liens. Donc, l'Occident est décrit d'abord comme une sorte de poison, comme une drogue, si vous préférez, une drogue. Il y a des drogues comme ça qui sont agréables, et puis au fond, qui sont mauvaises pour la santé, ou ça peut être vrai aussi, même pas forcément pour des drogues. Prenez le sucre, par exemple. Si vous proposez des petites choses sucrées, les enfants se jettent dessus, et les enfants américains qui en mangent sans cesse, et qui deviennent obèses. Alors, vous avez toutes sortes de choses dans la vie qui sont enviables, excitantes, agréables, mais qui en fait sont mauvaises à long terme. Eh bien, ils vont vous dire que la liberté des droits de l'homme, c'est ça.
Au fond, il y a une divergence aussi sur la définition de l'individu ou de la personne.
Ah, mais bien sûr, parce que ils ont, derrière, ils avancent une anthropologie qui est en général profonde, ancrée dans des cultures. C'est pas du tout un attrape-nigo juste pour dire que le droit de l'homme c'est mauvais. Non, c'est quelque chose de profond. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que tous ces pays qui nous critiquent, au fond, ont face à nous des anthropologies qui se ressemblent. Alors, naturellement, ce sont pas les mêmes. On peut pas dire que la culture chinoise, c'est la même chose que la culture musulmane, ça serait ridicule. Mais par rapport à nous qui sommes des individualistes, ils ont tous des anthropologies holistes, bon, disons holistes, on pourrait dire communautaires si on veut. C'est-à-dire qu'ils pensent, comme le disent certains auteurs chinois tout à fait remarquables qui ont écrit des ouvrages là-dessus, qu'aucun d'entre nous n'est une île. Chacun d'entre nous est d'abord un frère, un père, une femme, une épouse, une fille, une sœur, plutôt que d'être une île. Nous ne sommes pas une île. Et au fond, c'est ça leur argument principal. Ça, c'est un argument que l'on trouve aussi bien chez les Chinois, où il est très très bien documenté, que chez les Russes orthodoxes d'aujourd'hui, que chez les musulmans. Donc, c'est une critique de l'Occident individualiste, en fait.
Qui n'est pas sans rappeler quand même la façon dont nous voyons le monde en Occident également, avant la période moderne.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une convergence d'arguments dans toutes ces cultures, face à nous, hein, j'entends. C'est pour ça que ça se ressemble, c'est parce que c'est face à nous aussi. Alors après, bien sûr qu'ils se distinguent tous. Et puis, il y a une ressemblance à la fois avec des courants de pensée d'aujourd'hui en Occident qui critiquent la postmodernité telle qu'elle est. Par exemple, ceux qu'on appelle les gouvernements illibéraux, enfin la Hongrie de Orban, par exemple, ou bien les courants traditionnalistes en France ou conservateurs. Et puis en même temps, il y a une ressemblance avec les courants conservateurs, voire réactionnaires, dans l'Occident du 19e, c'est-à-dire après la Révolution. C'est-à-dire que si vous regardez l'argument pour critiquer la démocratie chez les Chinois d'aujourd'hui, vous avez des bouquins très, très puissants là-dessus, vous voyez à quel point ils ressemblent aux arguments de Joseph de Maistre. voyez. Ce qui est assez logique, parce qu'au fond, quand on critique la monarchie, la démocratie et qu'on défend la monarchie, c'est toujours avec des arguments finalement assez analogues, hein, selon les époques. Donc, vous avez là tout un courant qui est assez puissant aujourd'hui et qui est multiple, qui ressemble à d'autres courants qu'on peut trouver ici, aussi bien aujourd'hui qu'hier.
Est-ce qu'on peut distinguer quand même la façon dont ils s'expriment ? Parce que, vous l'avez dit, chacun a leur singularité. Est-ce qu'il est possible de faire la part de ces singularités entre la Turquie d'Erdogan, qui fait parler d'elle en ce moment,
ouais, c'est vrai.
La Russie de Poutine, le monde asiatique d'une façon générale, ou encore peut-être la Pologne ?
Oui, la Turquie d'Erdogan, c'est encore un autre exemple. Hein. C'est carrément typique. Bah, évidemment, il y a des différences très grandes, parce que si vous prenez la Pologne d'aujourd'hui, enfin, en tout cas, un courant principal dans la Pologne d'aujourd'hui, puisqu'ils viennent encore de gagner les élections, l'argument anti-modernité dans la Pologne d'aujourd'hui, ou anti-postmodernité plutôt, ça reste un courant personnaliste, chrétien, qui défend les droits de l'homme. Ça reste un courant quand même très proche de ce que nous sommes, complètement inscrit dans ce que nous sommes.
Il ressemble peut-être juste simplement à la France d'il y a 40-50 ans, non ?
Voilà, on pourrait peut-être dire ça. Ce sont des gens qui pensent que la postmodernité va trop loin. Alors, ce sont les excès qu'ils critiquent. Mais c'est pas la modernité des droits de l'homme en tant que telle. Ils sont d'accord. Ils sont personnalistes contre l'individualisme. Il y a d'ailleurs tout un courant, ce qu'ils appellent des modernités alternatives, en Pologne. Alors, j'ai fait dans ma conclusion une comparaison entre les modernités alternatives en Pologne, vous avez des courants très importants et très intéressants. Il montre comment devrait être la modernité, mais sans la contester, mais comment elle devrait être pour se détacher de ce caractère complètement individualiste, et sans être forcément chrétienne, parce qu'ils savent très bien que la chrétienté a disparu, donc on ne peut plus s'appuyer là-dessus de manière commune. Donc il y a une grande différence entre ça, et puis les modernités alternatives chinoises, parce que en Chine, on ne s'appuie pas sur une tradition européenne, forcément, et donc on n'est pas du tout dans un type de personnalisme. On est dans un système complètement holiste où l'individu est inscrit dans ses communautés. L'individu, en fait, n'existe pas. Il n'y a pas de conscience personnelle, il n'y a pas de personne individuelle. Il y a un être humain inscrit dans ses communautés, qui n'est rien sans ses communautés. Alors là, c'est dans les textes de Lee Kuan Yew qu'on peut trouver ça, au départ, tout ce qui est l'apparition des valeurs chinoises dans les années 2000. Et puis maintenant, il y a un assez grand nombre d'auteurs chinois très intéressants qui écrivent là-dessus. Et même des auteurs occidentaux qui les défendent, qui les suivent.
Alors, ce qui semble intéressant, c'est de se demander, en tout cas je me pose la question, est-ce que ces contestataires de la modernité occidentale mettent en avant simplement le droit à la singularité, ou est-ce qu'ils rentrent dans un débat lui-même universel en prétendant que leurs valeurs sont supérieures et mieux adaptées à la nature humaine de façon générale ?
Non, uniquement le droit à la singularité. Je pense que ce ne sont pas, en tout cas pour l'instant, mais ça serait vraiment un changement important, ce ne sont pas des gens qui cherchent à imposer leurs principes.
Il n'y a pas d'impérialisme culturel chinois, par exemple ?
Non, apparemment pas. Disons que les Chinois cherchent à avoir un impérialisme économique, avec tout le projet des routes de la soie, mais lorsqu'ils arrivent dans un pays et qu'ils déversent des milliards en échange d'une forme d'allégeance, forcément. Cette allégeance est économique, ce n'est pas une allégeance idéologique, en tout cas pour l'instant. C'est au moins ce que disent les spécialistes, vous, qui ne voient pas du tout la recherche. Ils ne veulent pas faire comme l'Occident, apparemment. Et les Russes non plus. Les Russes disent, nous, les orthodoxes russes, ce que nous voulons, c'est la nation, l'orthodoxie et l'autocratie. Un point. Mais ils ne cherchent pas à l'imposer aux autres.
Donc dans ce grand arc holiste, une première distinction peut-être quand même faite avec l'islam
l'islam est une religion universaliste, bien entendu. Enfin, c'est quand même une toute petite partie de l'islam. La plupart des pays musulmans ne sont pas excessifs à ce point. Ils sont tous, disons, entre l'islam et l'Occident, mais finalement assez occidentalisés. Les pays du Maghreb sont des pays occidentalisés, qui ne crachent pas sur les droits de l'homme. Ce sont des petits groupes. Alors évidemment, ils font beaucoup de bruit, ça c'est sûr.
Cela dit, il semble que justement, cette réflexion sur le statut des cultures ou de la personne ou des droits de l'homme vient justement des endroits où il y a des frictions avec l'Occident. Finalement, ces débats-là n'existeraient pas si chacun vivait dans sa propre sphère. Donc c'est justement dans les aires de tension que naissent les débats ou les réactions, non ?
C'est-à-dire qu'il y a des frictions parce que l'Occident est un peu déconcerté, voire même désolé, de ne plus être tenu pour universel. L'Occident avait quand même l'habitude d'apporter ses lois partout. D'ailleurs, nous continuons à le faire, d'une certaine manière. Toutes les guerres que nous faisons sont ce que Bertrand Badie appelle des guerres de punition. Hein. Nous punissons les gens de ne pas avoir été assez moraux, de ne pas avoir assez respecté les droits de l'homme. Donc nous avons l'habitude de faire ça, d'être un peu des maîtres d'école et d'imposer notre loi morale. Mais c'est justement ça qui ne peut plus se faire aujourd'hui.
À la décharge de l'Occident, à l'intérieur de celui-ci, c'est comme ça que ça se passe aussi.
À l'intérieur, oui, mais ça c'est déjà plus logique.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le raisonnement d'ordre politique ou religieux, c'est ce que vous expliquez, a dégénéré en quelque chose qui ressemble plus à une morale, qui redevient une religion, une idéologie.
Oui, alors ça c'est...
peut-être une généalogie à faire, parce que le nœud du problème est probablement là.
Oui, disons qu'il y a, actuellement en Occident même... Alors ça, c'est encore un autre problème, mais une sorte d'écrasement par la morale, à mon avis, parce que comme la morale de l'Occident était entièrement enracinée dans la chrétienté, bon, parce que c'est notre tradition, depuis 17 siècles à peu près, enracinée dans la chrétienté. Et la chrétienté, c'est un moment très important, en ce moment on ne se rend pas compte, mais la chrétienté est en train de s'effacer. Et ça depuis 50 ans, c'est pas vieux. Hein. Moi je date ça des manifestations pour défendre l'IVG, vous voyez, à peu près les années 60. Et donc vous avez un effondrement littéralement de la chrétienté. Je ne dis pas du christianisme, hein, je dis de la chrétienté. C'est-à-dire du fait que c'était le christianisme qui décidait de la morale et donc des lois, en fait, par derrière. Et là, il y a un effondrement. Alors, dans cet effondrement, on ne peut pas récupérer d'autres religions antérieures, parce qu'elles ont disparu depuis longtemps. Seulement, évidemment, ce changement, nous ne pouvons pas nous passer de morale. Aucune société ne peut se passer de morale, ça n'existe pas. Et donc, nous récupérons une morale, une sorte de morale chrétienne dévoyée, je dirais, ou abîmée, enfin, on peut discuter de ça, et puis nous l'érigeons en religion. Et ce qui fait que cette morale acquiert une puissance absolument sans nom, et au fond, elle contraint. Elle contraint non plus par la violence, parce que ça, on a soupé au XXe siècle de la violence, mais elle contraint par le ricanement, par l'ostracisme, enfin, tout ce qu'on voit sous nos yeux aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où la morale a été transformée en religion, parce qu'il n'y avait plus de religion. C'est un phénomène qui a été analysé... à ma connaissance, par une seule personne, en tout cas au XXe siècle, un Hongrois qui s'appelle Aurel Kolnai, qui n'est pratiquement pas traduit en français, très peu en tout cas, et qui dit, chaque fois que dans une civilisation, dans l'histoire, il n'y a plus de religion, c'est la morale qui prend la place. Et je crois qu'il a raison. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France.
Il prend la place aux dépens du politique, notamment.
De toute façon, le politique est toujours passé derrière les lois morales. Mais simplement, quand nous nous posons la question aujourd'hui, bon, quand on se pose la question, par exemple, de savoir s'il faut que la PMA soit admise, mettons, eh bien, il y a 40 ou 50 ans, si on s'était posé ce type de question, pas la même, parce que ce n'était pas encore le cas, mais ce type de question, eh bien, on écoutait la voix d'un certain nombre de cardinaux. Hein. C'était eux qui disaient c'est permis ou c'est pas permis. Alors évidemment, l'Élysée n'invitait pas les cardinaux à l'Élysée. Le président n'invitait pas les cardinaux à l'Élysée. C'est pas ça qui se passait, mais on écoutait la voix de l'Église, grosso modo. Tandis que maintenant, bah, vous voyez bien, quand il s'agit de savoir s'il faut permettre ou non la PMA ou autre chose, ou la GPA, ou, eh bien, on réunit des comités d'éthique dans lesquels vous avez, bien sûr, un catholique, un protestant, mais aussi un athée, un franc-maçon, un communiste, etc. etc. Donc, c'est ça que j'appelle la fin de la chrétienté.
C'est comme le sentiment d'un paradoxe. C'est pour ça que le livre est riche, d'ailleurs. C'est que l'Occident s'est érigé en une forme de relativisme absolu, mais en même temps un relativisme impérialiste et qui punirait tous ceux qui exciperaient d'une singularité. C'est curieux. Le relativisme impliquerait normalement de respecter que d'autres pensent différemment.
Oui, mais le relativisme n'est pas la tolérance, c'est pas pareil. Et d'autre part, je suis même pas sûr que ce soit du relativisme. Ça nous apparaît comme du relativisme parce que ça va dans tous les sens, parce que c'est plus du tout ce que nous avons connu auparavant. Et parce que ça induit aussi que l'individu soit libre. Donc ça peut partir dans tous les sens. Mais au fond, si vous regardez bien, vous avez un certain nombre de préceptes qui ne sont pas du tout relatifs et qui sont imposés. C'est ce que vous dites dans la deuxième partie de votre phrase. Ce qui vous apparaît comme une contradiction, je comprends très bien. Vous avez des préceptes qui sont imposés. Par exemple, personne n'a le droit d'aller à l'encontre de l'écologie. L'écologie est un principe considéré comme universel, universellement valable et qui s'impose à tout le monde. Ou encore, prenez la solidarité, quelqu'un qui s'insurgerait contre la solidarité ne pourrait pas parler. Donc ça fait partie des principes. Et puis, vous avez la liberté individuelle. La liberté individuelle est une sorte de principe premier. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, et pourvu qu'il ne gêne pas le voisin. Et on s'insurge quand on voit que des gens disent il ne faut pas permettre, mettons, la GPA. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Les gens le font. Un tel a envie de le faire, il le fait. Ça ne vous gêne pas. Donc ça, c'est un autre principe et contre lequel on n'a pas le droit de s'élever. Donc vous avez quand même, je ne sais pas si vous avez vraiment du relativisme, vous avez surtout une nouvelle morale, assez nouvelle quand même, et qui s'impose de façon... oui, assez autocratique, en fait.
S'agissant de l'individu, est-ce que ce n'est pas une morale de l'émancipation sans fin et sans frein?
Oui, tout ça provient des désirs d'émancipation, naturellement. Et tout ça est considéré comme étant la suite, c'est d'ailleurs le cas, de l'émancipation qui a commencé, mettons, à l'époque des Lumières, même bien sûr avant. Et pour que l'homme s'émancipe, il faut qu'il brise tous ses liens, parce que ce sont les liens qui contraignent. Bien sûr, les liens nous contraignent. Donc, on brise tous les liens pour émanciper l'individu, et l'individu finit par faire absolument ce qu'il veut, ce qu'il a décidé lui-même. Mais il n'a quand même pas le droit de décréter qu'il est anti-écologique ou qu'il est anti-solidaire, par exemple. Donc, c'est plus compliqué que ça.
Toutefois, dans mes questions, il y avait un sous-entendu. Est-ce que cette dynamique sans fin de l'émancipation n'est pas ce qui effraye les membres d'autres civilisations? Je veux dire par là, on a constaté que ce mouvement de contestation était relativement récent. Si l'Occident s'en était tenu aux idées, aux mœurs et aux manières d'être qui étaient les siennes, mettons, au tournant des années 50-60, est-ce qu'il susciterait la même défiance, la même méfiance, la même détestation, même qu'aujourd'hui? Est-ce que cette question est pertinente, ou est-ce qu'on ne sème pas l'effroi par cet emballement de notre modernité?
Je pense que oui. Je pense que ce qui sème l'effroi, c'est quand même ce sont les excès, quand même. Si on voulait le dire de façon, donner un exemple. Lorsque dans les années 50, on demandait de mieux respecter l'individu, de moins torturer dans les prisons, des choses comme ça pouvait s'entendre. Mais maintenant, quand on dit si vous ne permettez pas le mariage pour tous, vous êtes contre les droits de l'homme, alors là, ça devient excessif. Il y a beaucoup de pays qui disent mais vous êtes carrément fou, quoi. Voire même pour les homosexuels, il y a des pays dans lesquels ça ne passe pas. C'est par exemple le cas de la Russie. Donc effectivement, on peut penser que il y a une forme d'excès, enfin, ou de ce qui est considéré comme tel, et qui fait que, voilà, il arrive un moment où on ne nous supporte plus, quoi. On ne veut plus, en tout cas, nous suivre.
Voilà un beau paradoxe, c'est notre volonté d'universalisme qui nous couperait de la plupart des peuples du monde.
Ben oui, parce que il faudrait savoir ce qui est universel et ce qui ne l'est pas. Est-ce que le mariage pour tous doit être quelque chose d'universel ? C'est une question très, très importante. Vous voyez. Je pense qu'effectivement, on a été un peu loin, là.
Et là, en interne, parce qu'on a parlé de la Pologne, mais de la Hongrie, en quelque sorte, ce sont on est déjà à l'intérieur de l'Occident, mais à l'intérieur même des sociétés les plus avancées, qui se veulent les plus progressistes en Occident, pour ne parler que deux d'entre elles, les États-Unis et la France, qui sont emblématiques et qui ont représenté pendant longtemps ce feu sacré progressiste. Les contestations sont importantes. Est-ce que, selon vous, elles s'appuient sur le même type d'idées ou est-ce d'une autre nature ?
Il y a quand même une proximité. Les révoltes en tant que courant de pensée que l'on voit se produire en France et aux États-Unis, vous prenez ces deux exemples, effectivement, sont nés de la volonté de lien, de la critique de la liberté excessive, de l'émancipation excessive, sont nés de l'amour pour la patrie. Pour la nation, enfin, on peut parler comme on veut. Donc, effectivement, ce sont les mêmes arguments que ceux qu'on peut trouver à l'extérieur de l'Europe. Alors, bien sûr, ce ne sont pas forcément des groupes sociaux qui ressemblent, mais la critique actuelle de l'Occident provient essentiellement des milieux populaires, d'où le mot populisme. Et c'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai en France. Ce sont les milieux populaires qui supportent le plus mal cette nouvelle morale universaliste qui veut s'imposer.
On a le sentiment, en lisant votre ouvrage, que vous appelez quand même à entendre les autres. C'est-à-dire que, aussi, on est dans une forme de paradoxe, c'est-à-dire que ceux qui se présentent le plus volontiers comme progressistes seraient les plus sourds à comprendre l'autre et ses raisons de résister à ce discours ou d'avoir un discours alternatif ou une autre version de la modernité. Est-ce que ce serait une des issues pour apaiser à la fois nos sociétés et les relations internationales que de comprendre la singularité ou l'altérité, comme on dit aujourd'hui, enfin et pour de vrai?
Oui, bien sûr. Ceux qu'on appelle les progressistes, puisque on peut utiliser ce mot en effet.
Ceux qui s'appellent comme ça, d'ailleurs.
Ah, ils s'appellent d'ailleurs comme ça. Emmanuel Macron lui-même l'a dit. sont des gens très intolérants, hein, parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont ils sont carrément dans le sens de l'histoire et que leurs idées sont inévitables. On ne peut pas aller à l'encontre. C'est encore l'histoire de la flûte de Hamelin. Ou si vous préférez, ce que François Furet appelait le charme universel d'octobre. On est obligé d'y aller parce que tout le monde a envie d'y aller. C'est carrément irrésistible. C'est inévitable. Donc ils sont intolérants. Ils considèrent que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des arriérés, ce que j'ai appelé des demeurés dans mon livre sur le populisme.
Les demeurés de l'histoire.
Les demeurés de l'histoire.
Il y a un double sens à demeurer. Et il y a ceux qui demeurent dans l'histoire.
Ben oui, mais c'est bien pour ça que j'ai utilisé ce mot. Et effectivement, ceux qui essayent de résister, je pense qu'ils n'ont pas toujours complètement tort. Hein. Je pense que ce ne sont pas des crétins des Alpes. Il faut quand même les écouter un peu, parce que quand ils disent que chacun d'entre nous n'est pas une île, je pense qu'ils n'ont pas tort. Chacun d'entre nous n'est pas une île. Alors, de là à tomber dans le holisme chinois, non. Je ne suis pas une disciple de Lee Kuan Yew, par exemple. Mais Je pense que nous sommes allés trop loin dans l'individualisme. Ça, c'est mon opinion personnelle.
Non, pour poursuivre, on voit qu'on est pris quand même dans une sorte de dialectique qui nous mène à une montée aux extrêmes des deux côtés. C'est-à-dire que, à mesure que l'Occident se sent contesté, il se raidit dans ses principes et relance la dynamique du progrès et de l'émancipation indéfinie. Mais de l'autre côté, on sent aussi quand même que des principes traditionnels, qu'ils soient musulmans ou slavophiles en Russie et autres, se calcifient un petit peu également et deviennent aussi des armes de combat. Et tout ça ne nous mène pas forcément vers un avenir radieux, ou du moins apaisé.
Oui, c'est pour ça.
Il faut bien sortir du haut, de cette tension.
C'est pour ça que j'ai employé l'expression qui avait été employée par plusieurs auteurs au XXe siècle, de guerre des dieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lutte farouche entre deux pensées, je ne dis pas idéologie, parce que le mot est... Peut-être pas l'utiliser, faire attention à l'utiliser. Mais il y a quand même une forme de guerre, une lutte, comme vous dites, qui est assez raide. Bon, pour ma part, j'y vois une réédition, pour l'époque actuelle, différente des autres, mais quand même une réédition de la lutte entre ce que j'appelle l'émancipation et l'enracinement, qui est montée aux extrêmes au XXe siècle, le nazisme étant une exacerbation de l'enracinement et le communisme étant une exacerbation de l'émancipation. Ou si on préfère, on peut le dire autrement, moi j'y vois une réédition de la lutte entre la droite et la gauche. Bon, ce sont des notions très françaises, mais au fond, elles ne font que rééditer des choses plus ou moins universelles. La droite étant quand même du côté de l'enracinement, du côté des populismes, et la gauche du côté de l'émancipation, de l'universalisme, du progressisme. Donc, finalement, c'est une lutte qu'on voit à toutes les époques et qui ressurgit maintenant sous cet aspect-là.
Plus géographique.
Sous d'autres aspects, mais quand même, on la retrouve bien, je trouve.
Alors pour sortir par le haut d'une crise comme celle-là, est-ce qu'il ne faudrait pas, du temps de la guerre froide, je me souviens qu'on parlait de désescalade, est-ce qu'il ne faudrait pas entamer une sorte de désescalade idéologique en Occident, au sein même de l'Occident, sur ces questions-là, notamment en cessant de considérer les adversaires comme des demeurés, ou en cherchant simplement cette autre notion qui est au cœur de notre culture, le bien commun, plutôt que la volonté de l'emporter ou de terrasser l'adversaire?
Oui, ça c'est la difficulté quand on est vraiment arrivé à un point où on déteste les idées de l'adversaire, même si on ne déteste pas l'adversaire en tant que tel. Lorsque notre président parle de la lèpre populiste, c'est tout à fait typique. Si vous commencez à parler de l'adversaire avec des termes d'insecte ou avec des termes de maladie, c'est que vous considérez qu'il est un ennemi et non plus un adversaire. Donc vous n'êtes plus dans la démocratie, vous êtes dans la guerre. Et ça, évidemment, c'est très embêtant parce que ça empêche de se parler, ça empêche d'avancer.
Et de l'autre côté, ne faut-il pas sauvegarder un certain nombre de principes aussi? C'est-à-dire que l'enracinement, c'est très bien, mais enfin, l'émancipation et l'autonomie des individus, ça a son charme aussi.
Ah ben, plus que ça, oui, ça, plus que son charme, c'est très important. Mais bien sûr, il ne s'agit pas du tout de tomber d'un côté ou de l'autre. Il faudrait que les deux parties arrivent à se parler et je pense qu'il faudrait que l'émancipation aille moins loin. Disons qu'elle parvienne à gommer un certain nombre d'excès. Mais il ne s'agit pas évidemment de retomber, de réintégrer des époques passées. Moi, je ne suis pas du tout réactionnaire. Alors, ce qui me gêne beaucoup, c'est que beaucoup de conservateurs sont en même temps des réactionnaires. Donc
et c'est peut-être le processus de monter aux extrêmes dont nous parlions, c'est-à-dire confronté à des excès. Exactement. On pense rééquilibrer la société en mettant en avant de nouveaux excès, en chargeant l'autre plateau de la balance.
Exactement. Ça, c'est très mauvais.
Alors qu'en fait, il faudrait plutôt essayer d'être sur l'axe central qui donne de l'équilibre.
Eh oui, je suis bien d'accord.
Alors, il y a un mot qui revient assez souvent sous votre plume, c'est celui de personnalisme. Alors peut-être faut-il quand même faire la balance justement entre différents types de personnalisme. Vous opposez notamment le personnalisme de Bergson, plutôt français, et celui de Landsberg. Est-ce qu'on n'a pas là un début de piste pour s'en sortir ?
Oui, je parlais plutôt du personnalisme de Mounier, en tant que personnalisme français, et personnalisme effectivement de Landsberg que personnellement je préfère, parce que le personnalisme de Mounier étant français, et français de cette époque-là, donc l'époque il y a à peu près un siècle, était assez collectiviste au fond. Mounier était tenté par le Parti communiste, comme on sait. C'était au fond un personnalisme abstrait, comme les Français peuvent être rationalistes et abstraits. Tandis que Landsberg, lui, chez lui, c'est un personnalisme plus romantique, plus enraciné, justement, parce qu'il est allemand, tout simplement. Et l'Allemagne jusqu'à la guerre de 45, c'est ça. Personnellement, ça me convient mieux. Mais bon, évidemment, on peut discuter.
Qu'est-ce qui pourrait constituer la base d'un discours équilibré qui permettent de surmonter ces tensions entre, d'un côté, l'émancipation sans fin et un enracinement qui finirait en enfermement. Sur quelle pensée ou quel principe
pour... Personnellement, je suis personnaliste, donc je pense qu'il faut effectivement mettre l'accent sur un individu qui n'est pas seulement une île, donc, qui est une personne. C'est-à-dire qu'il est relié à la fois dans le temps et dans l'espace, à ses communautés et à sa propre responsabilité dans le temps. Donc, il n'est pas l'individu de l'individualisme contemporain. Je pense qu'il faudrait insister là-dessus et expliquer cela. Mais, au fond, tout viendra surtout de la discussion entre les deux parties. Il faut arrêter de s'invectiver, de considérer que l'autre est une lèpre, et puis discuter, et puis chacun mettre de l'eau dans son vin. Sinon, on n'y arrivera pas.
Vous pensez donc que si nous arrivons à résoudre ces contradictions internes, nous pourrons également avoir un dialogue plus fructueux, équilibré et apaisé avec d'autres ères civilisationnelles.
Je l'espère, oui, je l'espère. J'ai essayé dans ce livre, par exemple, de montrer à quel point les thèses de Lee Kuan Yew, enfin pas seulement les thèses d'ailleurs, mais même les actes de Lee Kuan Yew à Singapour, étaient finalement assez proches du personnalisme, même si, bien sûr, il y a des différences, mais quand même, je pense qu'il y a des proximités, il y a des liens qu'on peut montrer.
À pouvoir donc réintroduire de l'universel dans la singularité.
Par exemple.
Mais écoutez, pour engager ce travail, moi je ne peux qu'inciter nos auditeurs à se plonger dans l'ouvrage, car je pense qu'on a réussi à montrer sa richesse et son importance, mais la discussion ne s'arrête pas là. Il faut faire un travail par soi-même, car il s'agit de construire finalement. Votre livre n'est pas seulement une description clinique, il est un appel à la réflexion et
oui,
à la
sûr,
construction.
Bien sûr. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame. Donc les références de l'ouvrage sont Le crépuscule de l'universel par Chantal Delsol aux éditions du CERF. Merci beaucoup encore.
Merci, au revoir. Thank you.